Alors, Jim, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, en quelques mots.
Je m'appelle Jim. Donc, ça vient le nom du groupe. Enfin, le pseudonyme vient de mes initiales, en fait, c'est JM. À la fac, j'avais un ami qui m'avait surnommé Jim, du coup, et donc j'ai rajouté un M pour faire un peu moins commun. Donc, je suis guitariste-chanteur, surtout guitariste à la base. Et je me suis mis au chant il y a une douzaine d'années parce que mon groupe on a plus de chanteur, donc un peu par défaut et à force de j'ai longtemps cherché un chanteur ou quelqu'un qui composait à deux, j'ai pas réussi à trouver. Donc je me suis mis à chanter moi-même.
Et t'arrives avec le temps, l'expérience, t'arrives à prendre du plaisir à chanter ou
ouais,
ça reste un guitariste qui chante ou
Ouais, je reste quand même un guitariste qui chante.
D'accord.
Et non, mais j'aime bien chanter. Écrire les morceaux, chanter en concert, tout ça. Mais je chante jamais chez moi. Je joue de la guitare tous les jours, mais c'est pas un besoin comme la guitare.
D'accord. Et ça a un impact sur, entre guillemets, la création de la musique? C'est-à-dire que tu arrives sur tes lignes de chant très à la fin ou...
Ouais, je fais le chant à la fin. Je fais d'abord la guitare, les riffs. Je maquette sur l'ordinateur. Et ensuite, je fais les paroles. Mais souvent, quand je compose, j'ai la mélodie du chant qui vient quand même en même temps. Donc, j'ai plus qu'à poser les mots à la fin sur les... sur les mélodies, mais c'est ce qui reste le plus dur à mon sens, d'écrire des textes d'écrire un texte et de le caler avec une mélodie et tout ça.
C'est tu prends bien la tête, plus sur les rédaction des paroles et le positionnement des rythmes et que la musique.
Ouais, je passe beaucoup plus de temps. La musique, souvent, ça vient assez rapidement. Parce que je me force pas, en fait, quand je compose, ça vient, souvent je branche la guitare et c'est assez spontané. Ça va être le premier riff que je joue, alors je mets une boucle de batterie et je joue par-dessus. Et il y a pas mal de morceaux que je compose un peu pas en one shot, mais en une heure, quand j'ai le truc, enfin le riff,
Tu laisses la créativité parler, tu vois ce qui sort?
Ouais, ça se fait tout seul, et quand je vois que ça passe pas ou qu'il y a rien qui sort, j'arrête, je reprends, mais je force jamais le processus en fait. Donc, ce qui fait que quand je compose, les morceaux, je les écris assez vite, enfin je les compose assez vite.
D'accord, mais donc t'enregistres, à un moment tu fais un tri, tu vois ce que t'as sur tes bandes?
Non, en fait souvent ouais, je vais mettre une boucle de batterie, je joue par-dessus, et c'est souvent dans les 5 premières minutes, il y a un riff ou quelque chose, une idée.
D'accord.
Mais au bout d'un quart d'heure, je vois que j'ai rien ou quoi que ce soit, je lâche l'affaire, je sais que...
Et là, quand t'es vraiment en pure période de création, t'es que sur la musique à riff ou tu yaourtes entre guillemets pour positionner déjà une ligne vocale?
Non, je fais que la musique. Ouais.
Que la musique.
Je compose toutes les musiques. Enfin, sur ce disque, c'est ce que j'ai fait. Sur la précédente, peut-être pas parce que j'avais des morceaux qui dataient un petit peu. Mais là, ce disque, j'ai dans sa globalité composé sur la même période, à part deux morceaux et deux textes qui étaient sur d'autres musiques mais du précédent album et que j'ai changé la musique en fait. Mais pour le reste des morceaux, j'ai fait d'abord tous les instrumentaux, et après je les ai pris un par un, essayer de caler les textes, fallait faire des techniques.
D'accord. Si on revient un peu sur ton parcours, donc en lisant la bio qui est disponible sur ton site, on voit que tu as démarré assez jeune. Il y a eu une étincelle particulière, je sais pas, t'as vu le clip de je sais pas qui dit ça y est, faut que je me mette à la guitare. Parce qu'il y a un côté souvent, on se dit, la musique ça peut venir par, je sais pas, des parents, etc. Il y a un moment, et puis il y a un moment où je saute la démarche, et j'ai déjà choisi un instrument, qui est pas le violon ou je sais pas quoi, la clarinette. Il y a eu une étincelle.
Il y a eu un déclic, c'est aucun musicien dans ma famille, personne n'écoutait de musique. Et c'était.
Donc c'est pas le fait de se mettre à la musique, c'est pas du tout familial, c'est toi qui as voulu.
Ouais. En fait, j'avais fait un peu de piano quand j'étais gamin, mais c'était sous l'influence de mes parents, faire un instrument. Ça me plaisait pas à l'époque, mais après, je me suis remis un petit peu et ça m'a servi et j'aime ça maintenant le piano. Mais à l'époque, c'était pas, j'y allais un peu par contraint et forcé. Et l'étincelle, c'était, ouais, quand, avec le film en 91, Terminator 2, il y avait la BO avec les Guns, les Could Be Mine. Et c'est la première fois que j'ai entendu du rock et ce son de guitare. Et c'est là que j'ai commencé à écouter du rock et à vouloir faire de la direct, j'ai voulu faire de la guitare électrique en fait.
D'accord, tu t'es dit, c'est Slash qui me...
Ouais, voilà, c'était Slash, la guitare c'était un truc... J'ai acheté des albums et j'étais assez fasciné par les guitares. Mais je savais pas trop, dans ce que j'entendais, je savais pas trop ce que c'était en fait la guitare, parce que sur le livret des Guns, il y avait marqué guitare libre, guitare rhythm, guitare basse. Donc j'étais là, je voulais jouer les solos en fait.
Ouais, c'est ça.
Je savais pas, au début je croyais que Dove c'était Slash.
Ouais. C'est ça, non, mais bien sûr.
Et je voulais jouer de la guitare solo, mais je savais pas si c'était la basse guitare, la rhythm. En fait, je croyais qu'il y avait une guitare spécifique pour
un type de guitare pour les solos, un type de guitare pour la rythmique, et la basse guitare, je comprenais pas trop en fait. Alors qu'en fait, c'est une guitare, c'est juste que tu différencies.
Parce que donc, dans ton univers sonore de, je sais pas, de ta jeunesse ou préadolescence, il n'y avait pas du tout de rock
dans mon entourage.
Ouais.
Non.
Même, je sais pas, ce qu'écoutaient les parents à la radio, non, ou eux-mêmes ils pouvaient aimer, j'en sais rien moi.
Non, mes parents ils écoutaient pas, mon père n'écoute pas de musique et ma mère elle n'en écoutait quasiment pas.
Ah donc c'est même carrément la musique qui n'était pas très présente.
Mon père n'en écoute pas de musique, non.
D'accord.
Ma mère, je sais plus, je sais que j'ai regardé le top 50 quand j'étais gamin. Donc il n'y avait pas beaucoup de rock, mais il y avait quelques trucs.
Je sais pas, Europe, Final Countdown, ce genre de trucs quoi.
Ouais, mais j'ai connu après les Guns en fait. Okay. Final Countdown. Enfin, le premier morceau de rock que j'ai écouté,
c'est les Guns.
Avant, j'ai écouté des trucs de merde, Top 50 de la gaffe.
Oui, oui, bon, c'est ça. C'est hein,
le premier morceau de rock que j'ai découvert, c'est les Guns. Et après, mon prof de musique en 6ème, où j'écoutais déjà du rock depuis à peu près un an, deux ans peut-être, je sais plus. Il nous avait joué, c'est la première fois, il était branché rock, il nous avait joué un morceau de guitare électrique, des Pixies. Et c'est la première fois que j'ai entendu de la guitare électrique.
Et j'aurais adoré avoir un prof comme ça, mais c'était à la flûte à jouer, je sais pas.
C'était de la flûte, mais la deuxième partie du cours, il nous écoutait de la musique et il nous chantait des chansons. Et bah, là, c'est là où la chanson de traverse, il nous a fait écouter. Il nous a fait écouter Iggy Pop, les Pixies, Noir Désir, tout des trucs comme ça. Et c'est lui qui m'a donné envie de jouer de la guitare aussi.
D'accord. Autre élément, est-ce que le chant français a été pour toi s'imposer naturellement?
Ouais.
Naturellement, on dit rock anglais.
Ouais, mais non, moi ça a toujours été français parce que déjà dans tous mes groupes, même quand je chantais pas, je faisais la guitare, la basse, c'était des chanteurs qui chantaient français. J'ai toujours écouté du rock en français, Trust, Noir Désir, donc j'ai toujours eu cette culture rock français. Ensuite, je suis pas bon en anglais, j'ai l'accent du niveau lycée, j'ai un accent merdique, aucune crédibilité. Puis non, c'est naturel, et puis tout simplement, à partir du moment où je pense que quand tu écris des textes, tu veux quelque chose de personnel ou un ressenti, la manière la plus simple, la plus spontanée, c'est d'écrire dans ta langue maternelle.
Bien sûr.
Donc je me suis jamais posé la question.
D'accord. Et t'as pas eu envie de, voilà, même sur un titre, de faire un test ou
non.
Non. En fait, ça te trotte dans la tête ou pas du tout?
Je chante en anglais.
Ouais. Non,
j'ai déjà fait des reprises à l'époque avec un ami, on faisait des reprises dans les bars guitare acoustique et harmonica et je faisais des reprises en anglais. Et je te promets que l'accent anglais c'était cata quoi.
D'accord, non, mais.
Du moins... Dylan ou des trucs comme ça, de folk. Et l'accent anglais c'était cata quoi.
Non mais après l'essentiel c'est d'en être conscient. Après,
donc non choix, je ne verrai pas. Déjà sur l'album là il y a un morceau de Big Brother, le refrain de deux phrases en anglais.
Mm-hmm.
J'ai dû le refaire parce que quand je l'avais fait écouter il m'avait dit putain Jim t'aurais pu t'appliquer sur l'accent anglais aussi.
D'accord, ok.
Non je sais pas faire. Et puis même Trust, les albums qui sont faits en anglais c'était clair.
C'est pas là, on est pas d'accord, c'est pas la folie.
Bernie, même Bertrand Cantat, les Noirs Désirs en anglais, Eiffel, à chaque fois c'est...
Non puis ça casse le charme en vrai.
Même No One, ils font des reprises en anglais, tout, putain, quand je chante en anglais, machin, j'ai marre là, même en concert.
Ça te fait moins, hein.
Tu dis, ouais, vas-y, mec, on reste en français, c'était.
Là aussi, si on revient légèrement dans le passé, sur la période donc, de l'album précédent, qui était Incandescence en 2015, si on prend toute la période, là, la période un peu avant, c'est-à-dire la composition, l'enregistrement, la sortie, les concerts, etc., est-ce que pour toi, il y a. Voilà, si tu reviens un peu dans cette période, il y a un événement, un souvenir particulier qui pour toi synthétiserait toute cette période Incandescence ?
Un souvenir particulier. Non, chaque fois, c'est les enregistrements de l'album en studio. C'est ça. Je passe un mois en studio à chaque fois, quasiment. Enfin, ouais.
Et sans langue de bois, sans dire ouais, mais moi je vis pour la scène, etc. Ce qui était vrai, je sais pas. Entre je compose, j'enregistre en studio et après je le défends sur scène, c'est quoi où tu prends ton kiff?
Je préfère le studio.
Tu préfères le studio? Ouais. D'accord.
En fait, le studio, il y a un aspect créatif. Moi, ce que je préfère, c'est écrire, composer. Donc, faire les maquettes et tout composer chez moi, c'est pas mal, mais tu fais les maquettes, j'ai pas le matériel pour pousser les maquettes au niveau. En termes de qualité sonore. Et après, autant je compose tout seul, j'écris tout seul, mais j'ai besoin d'un avis extérieur pour me dire ah bon, moi ça c'est nul, ça le chant il faut changer, il faut simplifier. Et ça, c'est. Tu fais ça en studio. Et bosser avec des gars comme Fred Duquesne qui ont un regard assez critique, dans le bon sens du terme, qui va te dire ce qui va pas. Ça, c'est ce que j'aime vraiment. En plus, en studio, quand t'arrives, je teste toujours du nouveau matos, de guitare, plein de trucs. Donc il y a un aspect créatif.
Moi, c'est ce que je préfère. Je sais que la plupart des groupes préfèrent la scène parce qu'il y a l'énergie et tout ça. Mais à choisir, le studio, c'est créatif. Alors, le concert, c'est fun, c'est récréatif. Quoi.
D'accord.
Et
non, non, mais faire, après, c'est vrai que c'est un
kiff, c'est faire des disques, quoi, composer des chansons.
Justement, puisque tu mentionnais, qu'est-ce qu'en général tu peux dire des sessions d'enregistrement pour distorsion cérébrale? Et est-ce que, d'une façon ou d'une autre, parce que tu retravaillais avec Duquesne, tu as modifié ta façon de travailler ou évoluer par rapport à Incandescence?
Ouais, bah, en fait, cet album, Fred, Incandescence, j'avais fait les prises et le mix chez Fred Duquesne, enfin, donc il avait tout fait. Pour celui-là, il a juste fait le mix, enfin, il a remixé l'album parce que j'avais enregistré dans un autre studio, et il s'est avéré que les mix étaient mauvais, enfin, sans rentrer dans les détails. Je m'étais trompé dans mon choix. Enfin,
Donc après, tu lui as fourni toutes les pistes et il lui fait-moi.
Il a tout remixé, ouais, parce que les mix, les prises, il y avait pas été, le bout avait été mal fait. Enfin,
d'accord, donc il existe une version alternative de l'album en version dégradée. Quoi.
Ouais, ouais. Ouais, mais je pourrais te faire écouter si tu veux.
Ah, non, mais c'est intéressant parce que tu sais, on se dit, on a toujours le résultat final, mais parfois les mecs, ça a été remixé 4 fois ou 5 fois.
Ça a été remixé une fois, mais c'est même pas du remix, c'est que. Le mix original, ça sonnait comme des maquettes, alors que le gars il avait un studio avec une console à 150
000 boules. Ah ouais. Donc Fred a fait le mix.
Ouais.
Alors là aussi, il y a toujours, moi j'ai toujours la curiosité, le tout premier que tu avais fait avec Francis Cast.
Ouais, ouais.
Sans dire ni l'un est mieux que l'autre, parce qu'ils ont forcément un style et un différent, est-ce qu'ils ont une façon entre Duquesne et Cast, ils ont une façon de travailler différente, ils t'ont apporté quelque chose de différent?
Ouais, en fait, ils ont une manière différente. Déjà, ils ne travaillent pas sur le même logiciel. Francis, il a Pyramid Dix, et Fred, il a Pro Tools, qui est un logiciel universel.
Ouais. Ça change beaucoup de choses?
Ouais, parce que par exemple, là, quand j'ai été remixé, j'ai contacté les deux. Moi, j'avais laissé sur Pro Tools, donc c'était beaucoup plus simple chez Fred. Que d'aller chez Francis où il fallait que j'exporte tout.
C'est ça, ok. Donc, tu gagnais du temps.
Ouais, gagne de temps.
Travaillant tout sur Pro Tools.
Ouais. Après, chacun a plein de logiciels, donc chacun a sa manière de faire. Mais après, je sais que Fred, au niveau des voix, je faisais beaucoup moins de prises. Il faisait souvent la première. Allez, on recommence, on recommence direct. Et de cette manière, les voix, je mettais beaucoup moins de temps chez Francis. J'avais fait plus de prises. C'était mon premier album aussi, donc j'avais pas vraiment de recul. Et j'avais pas mal galéré à les faire parce que ouais, j'avais pas cette expérience là. En termes de.
Avec le temps entre les trois albums, ouais. Tu travailles de plus en plus vite ou non? T'as besoin toujours à peu près du même temps en studio? Si je retire l'aspect financier, hein, qui fait que des fois.
Ouais, non, 15 jours, peut-être 15 jours. Je pensais que j'irais beaucoup plus vite, mais en fait, tu t'aperçois que quand t'arrives, il y a toujours des choses à laquelle t'avais pas pensé ou des arrangements qu'il faut corriger. Donc les voix, j'ai quand même fait des progrès, je galère moins, travailler plus vite, je sais pas, mais j'ai moins de mal qu'à l'époque.
D'accord. Et quand tu arrives en studio, t'es maqueté au cordeau, ça bouge pas, ou tu te laisses justement des grandes zones de liberté, tiens là il faudra que je fasse un solo qui est pas posé, etc.
Non, les solos en principe tout est écrit, mais ça m'est arrivé de changer certaines parties solo qui étaient pas...
qui finalement te convenaient pas.
Il y a des... On raccourcit des textes, enfin c'est des petits arrangements par-ci par-là, modifier des structures, simplifier des parties de guitare, de basse, changer des mots, des sonorités, des mélodies de voix avec des hauteurs qui vont pas. Sinon, il y a la maquette, mais il y a toujours, en général, il y a toujours des arrangements, des modifications, et ça c'est dû au producteur, je vois, parce que moi j'ai pas le recul pour me rendre compte forcément de ce qui va pas.
D'accord. Toujours dans le. Enfin, un élément important également, c'est l'aspect visuel. Sur le nouvel opus Distorsion Cérébrale, voilà, c'est un travail sur la photo où voilà, on te voit toi dans différentes positions. Enfin,
ouais. C'est marrant, c'est plein de bonus. En fait, la photo on l'avait faite et le titre de l'album on l'avait. À la base, je voulais l'appeler Distorsion, mais c'est avec le label. Il m'a dit appelle-le plutôt Distorsion Cérébrale, c'est moins commun. Mais c'est vrai, après avec la photo ça, et l'effet de flou, il y a une petite corrélation entre le nom de l'album et la photo.
Alors, ma question va peut-être te sembler te faire sourire, mais quand on est un artiste solo comme toi, c'est important de mettre sa bouille sur le. Parce que sur les trois disques, t'apparais quand t'es dessus. Est-ce que y a une stratégie derrière ou
non,
c'est juste.
En fait, c'est que. Je sais jamais quoi mettre en pochette et j'aime pas me prendre la tête. Donc, je savais pas quoi mettre. Donc, premier album, j'avais fait des photos. et
il y a ce filtre noir.
Ouais, il y a bien un film, ouais. J'ai mis ça. Le deuxième, j'ai pareil fait des photos avec une amie dans le sud qui était photographe. Donc j'avais mis ça parce que j'y connais rien en tout ce qui est web graphisme, j'avais pas d'amis, je connaissais personne. Donc j'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire. Donc là, donc les deux premiers, j'avais mis une photo. Et pour celui-là, au début, je voulais pas mettre, je voulais changer. Donc j'avais essayé de voir s'il n'y avait pas des œuvres d'artistes. À chaque fois, il fallait payer des droits,
contacter.
Et j'avais déjà dépensé pas mal d'argent, donc on est revenu à quelque chose de simple. La photo, c'est un ami qui a fait photo dans mon garage avec mon appareil.
D'accord, non, mais.
Et un montage, pareil, la photographe, une amie photographe.
Non, maintenant, enfin, c'est le... Moi, je m'amuse parce que j'en vois beaucoup, mais ça bouille, mais pas ça bouille, mais la photo, elle est belle et finalement, ça passe super bien, quoi.
Ouais, après, il y en a beaucoup qui me disent que ça correspond pas au style, en fait. Ce qui est assez vrai parce que.
Ouais, quand tu vois ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre.
Ouais, l'avantage. Je pense pas forcément que ça va être un album de guitare. Je voulais pas remettre la photo avec la guitare, parce que je trouve ça un peu cliché quand même.
Ouais, je suis d'accord.
Pour le mec qui pose avec la guitare, je l'ai fait deux fois, mais ça fait vraiment un album de guitariste années 80 pour un gars.
Ouais, ça fait, oui, je suis d'accord avec toi. Là, je crois que t'as fait le bon.
Je l'avais refait remarquer plusieurs fois et je m'étais dit, ah ouais, c'est vrai quoi, je vais peut-être arrêter.
Ouais, donc il manque la guitare, le Road 66, ouais. Et puis je sais pas quoi, et puis là t'es dans le cliché total. Voilà. Toujours dans les aspects visuels, donc t'as sorti un clip pour le premier titre qui est Big Brother.
Ouais.
Donc le clip qui, d'après ce que j'ai vu, a été réalisé par Mathias Castegnaro.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux nous dire en général sur l'enregistrement de ce clip? Et est-ce que c'est un exercice où tu prends du plaisir ou là aussi c'est un peu c'est une obligation donc tu le fais mais...
Ah non, les clips c'est cool.
C'est rigolo.
Ouais, c'est Mathias qui gère le gros du travail en fait. Donc l'idée du clip c'est lui qui l'avait trouvé avec le shibari, les cordes. Donc j'ai pas fait grand chose en fait, on l'avait tourné sur une soirée, c'était en fin octobre 2017. Ça s'est fait assez rapidement. Moi j'ai juste fait deux prises de playback à la fin.
Et après il a fait son montage et
ouais,
t'as
il a
le
fait montage. On a fait des prises au tout début avec l'actrice avec les cordes. Lui après il fait le montage, l'étalonnage. Moi je passe, je regarde, je dis ce qui me va, ce qui ne va pas, ce que j'aime. Non, les clips, c'est à chaque fois qu'on en a fait, c'était bien.
Hein. Et en 2018, au moment où en même temps on a l'impression, parce qu'il y a eu une période, il y a eu la période, tu vois, VH1, MTV, où c'était les clips qu'il fallait, et après il y a eu un espèce de gros, plus personne n'intéressait. Là maintenant, on peut avoir l'impression qu'un clip c'est super important parce qu'il y a YouTube,
ouais.
Mais en même temps, il y a tellement de trucs dans YouTube que une goutte d'eau dans l'océan.
Ouais.
Mais toi, en tant qu'artiste, ça reste encore un outil de promotion important?
Je trouve quand même. Mais après, ça a un coût, donc. Faire un clip, tu fais un clip à perte quasiment parce que ça ne rapportera pas d'argent, mais je l'avais fait trois pour les précédents, là je ne referai pas parce que financièrement ça coûte trop cher.
A priori c'est le seul et unique pour...
À part si quelqu'un me propose un financement ou on fait un clip live. Se faire un clip par nos propres moyens, faire un truc pas terrible, c'est pas normal.
Oui, vaut mieux soit mettre les moyens et faire quelque chose de propre, soit...
Faire quelque chose de bancal, c'est pas trop... faire moins bien que ce qu'on a pu faire par le passé, je vois pas l'intérêt. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de clip de prévu. Et ça reste un moyen de promotion, hein, parce qu'une fois que tu l'as, tu peux le diffuser sur tout.
Par exemple, je sais pas, dans ta recherche de concert ou de date, ça a pu t'aider ou...
Je sais pas, mais par la recherche... Enfin, je l'avais mis une clip dans le but de démarcher. Donc. Sûrement aussi que ça m'a forcément un peu aidé.
Ça rend un peu ta démarche un peu plus sérieuse. Quoi,
quand t'as un clip fait correctement, ça apporte un peu de crédibilité, je pense.
D'accord.
Puis être présent sur YouTube, après le clip, tu peux le diffuser sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. C'est quand même un bon support de promotion.
D'accord.
Et ça a un coût.
Oui. Donc, tu as fait là sur ces dernières années, tu as fait régulièrement des concerts. En 2016, tu avais accompagné un chanteur rock australien,
ouais.
Simon Chinso,
ouais.
Sur sa tournée européenne. A posteriori, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience?
C'était top. En plus, c'est sur cette tournée que j'ai rencontré Guillaume, le batteur de cet album.
Ouais.
Donc il habite en Alsace, à Colmar, donc on s'était bien entendu, il joue super bien, donc il était bougé sur mon disque. Donc c'était bien, on avait fait une vingtaine de dates sur 3 semaines à peu près, donc on avait été un peu en Italie, en Allemagne.
C'était ta plus grosse tournée
Je n'ai pas pris vraiment d'autres tournées après.
Tu faisais des dates
Par le passé, j'ai fait 2-3 dates sur 3 jours d'affilée.
Et donc, parce que je pense qu'on. Alors, surtout nous musiciens, on se fait des films sur les tournées.
Ouais, mais c'est pas... Je peux t'expliquer le planning. À nous, on arrivait l'après-midi, je sais plus, faire 17h à la salle. On installait le matos, on allait manger. On jouait, on désinstallait le matos, on allait manger, on allait dormir. Ouais.
Et le lendemain, tu sais plus trop dans quelle ville t'es au bout d'un moment, mais bon.
Oh, si, quand même, on était encore là, mais.
Mais y avait pas... C'est un peu plus rock'n'roll que ce qu'on imagine, mais parce que bon.
C'est pas ce que c'est pas les beuveries, puisque les pêcheries, les gonzesses et compagnie.
Oui, voilà.
Enfin, sur cette tournée, en tout cas, nous, c'était tranquille. C'est, moi, j'ai adoré, c'était vachement bien parce qu'on bougeait, on faisait plein de concerts. Mais après le concert, je pliais les câbles, la guitare, je portais l'ampli.
Oui, c'est pas genre je vais me bourrer la tronche et puis j'ai oublié le matériel qui est un peu sur la scène. Quoi. Sinon, le lendemain, c'est pas sûr.
Tout le monde là, t'es installé, t'avais personne pour.
Et t'as pas 4 audis, t'as pas ton guitar tech, t'as rien.
Non. On avait le groupe, donc on était 4 et le conducteur du van qui devait installer la batterie et qui s'occupait du merch.
Ah ouais, multi-carte, mec.
Ouais, il s'occupait d'installer la batterie parce qu'il était batteur, il s'occupait du merch, de conduire, faire les plans et tout. On se tapait 500 bandes tous les jours dans un van.
Il y a plus fun, quoi.
Ouais, c'était bien, mais c'était pas l'image qu'on pouvait croire des tournées dans n'importe quoi.
Et Chainsaw, il a un peu plus d'expérience de bouteille que toi.
Ouais.
Son contact sur ces 20 jours, sur ces 20 dates, t'as appris des trucs, je sais pas comment. T'as été surpris qu'il fasse telle chose de telle façon ou...
Lui, il avait déjà fait plein de tournées, donc moi, ma grande découverte, c'était surtout de faire 20 dates en 20 jours, de voir comment ça se passait, l'enchaînement, tenir physiquement et mentalement, parce que c'est quand même aussi. Tu fais tous les jours 500 km dans un van avec 5 personnes pendant 5 jours, par 20 jours. Des concerts tous les soirs, une sorte de routine, enfin, c'est pas de la routine, mais tous les jours installé.
Mais surtout, t'as l'impression que c'est une journée qui, entre guillemets, tu t'ennuies, qui est lente. Il y a une espèce de. Donc là, en plus, toi, tu fais l'installation, mais après, il y a une espèce de pic pendant le concert lui-même. Et après, tu redescends et ça revient sur le. Enfin, tout ça pour une heure de potentiellement.
Bah oui, c'est vrai que, tu montes 500 km, on installait, on en est pour 45 minutes de concert.
C'est ça.
Bon, il y avait des dates vachement bien, il y en avait quelques autres où.
Il y en a une qui te reste à l'esprit
par contre. Ouais, Périgueux. C'était bizarrement, tu vois, Périgueux, c'était un bar, c'était blindé de monde, il y avait une centaine de personnes.
Ils ont pas beaucoup de trucs rock.
Ouais, mais lui, il avait déjà tourné là-bas, il y avait une asso et tout, et c'était. Moi, j'avais des gens devant ma guitare. On était vraiment. Le bar était blindé. Et c'était top. Après, en Italie, les conditions d'accueil, c'était cool aussi, quoi. Franchement, en Italie, à Genève, la date à Genève, au bouffon de la taverne, c'était vachement bien, la salle. Enfin, le club était plein, les conditions, c'était la chambre.
Ok.
Il y avait 4 ou 5, quoi, d'être. Donc, c'était top.
Donc, tu serais prêt à repartir si ça se représentait
Je pense que dans le contexte actuel, je pourrais pas pour d'autres raisons. Parce que quand tu pars, financièrement, on gagne rien.
Si tu arrives à couvrir tes frais, t'es content, quoi.
Ils n'avaient pas couvert ce
truc. Non.
Entre les frais d'essence, le billet d'avion depuis la Grèce et compagnie. Ils les avaient pas couverts. Parce que les péages et l'essence, la location du van, dès que tu joues pas un concert pendant un jour, c'est 300 balles, enfin 150 balles de location ou 200 balles.
Ouais, là, c'est pas bon. Ça tombe.
Donc,
c'est ça, donc les 2 day-off, tu te retrouves blindé, quoi.
On avait eu un ou deux day-off à Berlin, je crois. On n'avait pas joué. Et mes parents avaient 2 day-off, t'as la location du van qui
tourne. Hein.
Puis après, tu me fais se mourir, tout ça, quoi.
D'accord. Ouais, non, voilà, on est loin du rêve de la tournée, quoi. Enfin, c'est bien quand les artistes atteignent un certain niveau, mais.
Ouais, voilà. Quand il y a des gros moyens et tout ça, ouais, sûrement, on est là.
Ok,
c'est pas dans les films.
Est-ce que tu es utilisateur de services type Spotify ou Deezer?
Un petit peu, ouais, Spotify plus.
Pour toi, un musicien. C'est une bénédiction ou une malédiction? Il y a le côté je suis utilisateur, ça peut être sympa, mais l'autre côté artiste, au niveau à monétiser sa musique, c'est un peu cacahuète. Ouais.
Bah, c'est sûr que sur les services de streaming, en gros, tu touches 1€ pour 1000 streaming. Quand tu es indépendant, quand tu as un label ou que tu es signé, tu touches beaucoup moins. Mais dans mon cas, les deux premiers albums sortis en indé, sans prendre des royalties générées, c'est à peu près 1€ pour mes streamings, donc c'est quasiment rien. Mais bon, d'un côté, 1000 streamings, c'est rien non plus. Donc,
Mais c'est une obligation pour toi d'être présent ?
Ouais, ouais, parce que ça permet de toucher quand même mal des gens. Parce que les 3/4 des jeunes aujourd'hui, ils écoutent là-dessus.
Enfin,
les 95% des gens, ils écoutent tous là-dessus, ils achètent plus de CD. Certains achètent des vinyles, mais tous les jeunes écoutent sur YouTube et les sites de streaming. Donc si tu n'y es pas, tu perds. Enfin, ouais.
Tu es en dehors du truc.
C'est à côté de la.
Et alors, donc juste les deux petites dernières questions, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019 ?
Faire pas mal de concerts, parce que là j'ai sorti le disque.
T'as des... Il y a des pistes là ou...
Pour l'instant non, là, on devrait jouer sur Rennes, peut-être un peu en banlieue, mais j'ai pas eu le temps non plus trop démarcher.
Ça reste de toute façon ton site internet et tes réseaux sociaux pour suivre un peu l'actualité du.
Ouais, sur Facebook, le site en lui-même, j'essaie de le mettre à jour régulièrement, mais.
Plutôt Facebook ?
Ouais, parce que après les dates, je les poste aussi sur le site. Mais je poste plus sur Facebook parce que le site, je suis pas certain que beaucoup de gens aient dessus en fait. Je pense
d'accord.
Les gens, je pense qu'ils vont. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont d'abord sur Facebook.
Je pense que tu as raison.
Ouais, mais Facebook filtre pas mal aussi. Donc maintenant, quand tu postes quelque chose, t'as 10% de ta fanbase qui le voit. Donc c'est un peu.
Ouais, il paraît que ça va dans le bon sens, mais je suis pas sûr. Hein.
Moi, je peux dire que les audiences et les trucs, quand je sponsorise les trucs, je vois les résultats. Et t'as beaucoup moins de visibilité qu'il y a quelques années. C'est pour inciter les gens à payer.
Et juste une dernière question, si t'avais une recommandation musicale à faire sur 2018, ça serait quoi
Comment ça quoi
un disque qui t'a bien tapé dans l'oreille sur 2018 un truc que t'écoutes ou.
Une nouveauté
plutôt, mais après, si t'as un truc d'il y a 20 ans que t'écoutes depuis que t'as découvert toute l'année, c'est un beau aussi.
Ouais, alors à chaque fois qu'on me demande ça, je sais jamais.
C'est quoi qui tourne en ce moment sur ton Spotify et ça
Le dernier truc que j'ai écouté hier, c'était Super Suckers, The Backyard Babies.
Oui, c'est pas. Oui, d'accord.
Mais parmi les nouveautés.
Il n'y a rien qui t'a accroché l'oreille récemment.
Ces derniers temps, c'est Carpenter Brut. Mm-hmm. J'adore. Pourtant, je suis pas fan d'électro à la base, mais lui, il a un côté. Enfin,
il a une touche spéciale quand même.
Ouais, je suis fan des musiques de films, lui, il combine tout ça.
Ouais.
Avec les sonorités Saint-Ouen des années 80, le côté métal.
Ah, il y a un côté nostalgie, rock. Ouais, c'est bien branlé.
C'est super mélodique, j'ai vu plusieurs fois. Enfin, je suis vraiment accro à ce groupe-là. Donc, il a sorti un album cette année qui vient.
Bon, Carpenter Brut, la recommandation.
Ouais, parce que après.
Si on revient au classique et Carpenter, c'est pas mal.
Les groupes que j'ai découverts, franchement, j'ai tout le temps. Il y en a sûrement, mais je les ai pas en tête.
Pas de soucis. Merci à toi.
Merci.
À bientôt. Salut.